Bonjour à chacun, chacune. Vous allez bien? Oui. On a eu cette semaine au niveau de l'Église, pour ceux qui ont pu participer, un temps un peu particulier de jeûne, de prière sur deux temps, le midi et le soir. Et j'ai eu à cœur de pouvoir, dans le prolongement de ce que certains ont pu vivre, à la fois sur ce temps particulièrement, mais aussi sur un thème très particulier, qui était abordé sous pas mal d'angles et qui pourrait encore l'être, je pense, de manière quasiment infinie, se tenir devant Dieu. Se tenir devant Dieu et pendant cette semaine, plusieurs peut-être sont venus chercher des réponses, peut-être chercher la volonté de Dieu, peut-être... une guérison, une restauration, sont venus avec des attentes plus ou moins importantes. Certains ont pu venir ici, d'autres ont jeûné à la maison, sur le lieu de travail, d'autres n'ont pas pu le faire pour diverses raisons, peu importe. Mais ce thème, se tenir devant Dieu, je pense qu'il est important dans la vie d'un chrétien. Il est plus qu'important, il est, je pense, incontournable. Et j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques temps, je crois que c'était un mardi soir. Se tenir devant Dieu... On peut se tenir très près, on peut se tenir très loin. Hein, je me tiens devant le premier rang et je me tiens devant le dernier rang, mais je suis pas au même niveau. Et je peux me tenir devant Dieu dans une intimité, dans un face-à-face, dans une relation étroite. Et je peux me tenir devant Dieu aussi avec de l'éloignement. On l'avait vu et lu dans la parole quand Dieu avait convoqué le peuple d'Israël pour une rencontre et le peuple effrayé. Il nous est dit qu'il est resté dans l'éloignement. Et le temps de jeûne est un temps particulier où on vient devant Dieu, dans un cœur à cœur, où on essaye d'avoir cette intimité avec lui. Et on voit que dans la Bible, l'expression « jeûner » est là la même signification, elle est apparentée au terme « s'humilier »,« affliger ». Et dans l'Ancien Testament particulièrement, le jeûne est toujours associé à un esprit d'humiliation, d'affliction, de profonde repentance. Le jeûne n'est pas associé à un moment de festivité, de joie. Il y a de beaux moments de festivité dans la parole de Dieu, mais le jeûne, il est apparenté, il est associé à un temps particulier de remise en cause ou un moyen de préparation. On le voit dans certains cas, on le voit dans Esther, on le voit dans Esdras et certainement d'autres situations. Un moyen à se préparer pour vivre un temps qui s'annonce particulièrement difficile. À l'époque de Jésus, le jeûne avait pris une place considérable dans la vie religieuse et on le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 14. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et lui dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Et on voit au cours des évangiles, particulièrement pour les gens religieux, que le jeûne était devenu une sorte de formalisme. Le Seigneur lui-même nous parle de la parabole du pharisien et du publicain, ces deux hommes qui, l'un est responsable religieux et puis l'autre un pauvre pécheur, et les deux vont au temple. C'est une histoire, je pense, qu'il aurait presque pu mettre des noms dessus, parce que lui qui observait, c'est certainement quelque chose qu'il avait dû observer dans le quotidien. Et puis il y a ce pharisien qui se présente dans le temple devant Dieu et qui dit « Oh Dieu !» Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, adultères ou même comme ce publicain. Waouh ! Lui, il était propre sur lui, hein, comme on dit. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et il venait devant Dieu en faisant valoir ce qu'il pensait être. Et ce jeûne, je jeûne deux fois par semaine, mais il n'avait pas compris que sa prière... Je pense qu'elle ne dépassait pas le niveau du plafond, parce que Dieu n'attendait pas ça, et son jeûne n'avait aucune valeur devant Dieu. Et on voit que Jésus va apporter un esprit nouveau dans l'observation du jeûne, de ce temps particulier. Matthieu chapitre 6, verset 16, il nous est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer qu'ils jeûnent. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il n'est pas question d'une apparence, il n'est pas question d'un rite, mais il est question d'une relation, d'un cœur à cœur avec Dieu qui est là dans le secret avec le Père céleste. Et on le voit, Jésus lui-même, alors qu'il était fils de Dieu, a jeûné pendant 40 jours dans le désert avant d'exercer son ministère terrestre. Alors, à plus forte raison, il est nécessaire, indispensable de jeûner, mais particulièrement de nous tenir devant Dieu. Le jeûne est un moyen de s'isoler, de prendre du temps, de faire aussi état sur sa propre vie, de gérer peut-être une priorité. Le jeûne, c'est... plutôt que de passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure ou plus à manger, ce temps-là, il n'est pas pour moi, il est pour mon Dieu. Je le consacre à mon Dieu. Et à plus forte raison, si Jésus a été amené à le faire alors qu'il était le Fils de Dieu, c'est indispensable pour nous de nous tenir devant Dieu si nous voulons marcher à sa suite, si nous voulons connaître sa volonté, pratiquer les œuvres bonnes qu'il a réservées d'avance pour chacun de nous. Alors je voudrais m'adresser peut-être à certains qui sont sceptiques, qui sont découragés, qui sont incrédules, qui sont peut-être endormis et qui disent « le jeûne ça sert à rien, il ne se passe rien, moi j'ai essayé, j'ai rien vu, pourquoi continuer ? Pourquoi continuer à se tenir devant Dieu ?» Et je dis « oui c'est possible que tu aies jeûné, que tu n'aies rien vu se passer ». Pour plusieurs raisons, il y en a peut-être d'autres, je vais en évoquer quelques-unes. Mais une des raisons, peut-être, c'est que si tu jeûnes avec un esprit religieux, comme les pharisiens qui n'avaient pas compris le sens profond du jeûne, si tu passes ce temps comme une contrainte, je dois, il faut que je jeûne parce que je vais mériter, alors le cœur n'est pas disposé. Le cœur n'est pas disposé. Et ne sois pas surpris s'il ne se passe rien. Le jeûne n'est pas une monnaie d'échange pour obtenir quelques faveurs de la part de Dieu. Plus je jeûne et plus tu vas me donner. Ce n'est pas un moyen de revendication. Seigneur, j'ai jeûné, donc tu me donnes. Non, le jeûne est un temps de remise en cause, un temps particulier où on s'examine et on vient tel qu'on est devant Jésus, devant Dieu. Il se peut qu'il ne se passe rien parce qu'on est hermétique à la voix de Dieu et on continue à faire comme on a décidé. Seigneur, je te présente ma situation, je te présente comment j'ai décidé de faire, merci de me bénir et de conduire toute chose. Alors je le fais en version simplifiée, parce que ça peut être beaucoup plus long, on peut être sur ses genoux et on peut intercéder, mais dans notre cœur, on a décidé de toute façon que ce serait comme ça. Conduire toute chose, comment est-ce possible que Dieu conduise toute chose si on n'en fait qu'à notre tête et qu'on ne lui laisse pas la place. Alors, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, acceptons qu'il vienne bousculer nos plans. Oui, on peut avoir des plans, oui, on peut avoir notre point de vue sur une situation, sur notre problème, sur... Mais acceptons que le Seigneur ait un point de vue différent. Notre frère, je crois que c'est Corneille, dans la méditation qu'il a portée jeudi, parlait d'Habacuc qui a été surpris, il a questionné Dieu et la réponse, il ne s'attendait pas à ça. Et on le voit à plusieurs reprises dans la parole. Et moi, j'ai un texte qui me parle particulièrement. On peut lire ensemble, si vous voulez, dans les Actes, au chapitre 16. Il me parle particulièrement parce qu'il est question ici de causes et de situations qui paraissent nobles et légitimes, l'annonce de l'Évangile. Et on le voit donc dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Paul et Timothée font route ensemble pour annoncer l'Évangile, et il nous est dit ceci, au verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On a ici deux frères bouillants pour annoncer l'Évangile, qui vont de ville en ville, qui évangélisent, et puis à un moment, le Saint-Esprit les empêche d'annoncer la parole. Ouf ! Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça doit être particulier de vivre ça. Ils avaient commencé, si vous prenez, on va pas lire tout le texte, mais ils avaient commencé un parcours, et à un moment, le Saint-Esprit leur dit non. Et oui, le Saint-Esprit peut même empêcher d'annoncer la parole à certains moments, parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas là, parce que ce n'est pas le temps que Dieu a choisi. Alors ils traversent, ils sont sensibles, et ils n'insistent pas, et ils continuent. Et à un moment, ils disent, on va entrer en Bithynie, puis on va là-bas annoncer. Mais l'Esprit ne leur permet pas. Alors ils obéissent, et puis ils continuent, ils descendent à Troas, c'est là, Dieu parle à Paul. Et je suis persuadé que s'ils avaient continué sans tenir compte des avertissements, je pense qu'ils n'auraient pas entendu. Et Paul n'aurait peut-être pas eu cette vision d'aller secourir les Macédoniens. Mais le Saint-Esprit a trouvé un terrain favorable parce qu'ils étaient attentifs et parce qu'ils obéissaient. Et je crois que quand on parle notamment d'obéir, d'être fidèle dans les petites choses, c'est quelque chose qui doit parler à nos cœurs quand le Saint-Esprit, sur des petites choses, nous avertit. Alors si aussitôt on réagit, si aussitôt on obéit, si aussitôt on écoute, alors il peut nous en confier de plus grandes. Mais s'il nous parle, et puis qu'on fait comme si de rien ne s'est passé, et on continue, et on continue, et on continue, alors on finit par l'attrister, et puis un jour on se dit, mais je ne comprends pas, le Seigneur il ne me parle jamais, il ne se passe rien. Oui, mais souviens-toi des temps où il t'a parlé, et où tu n'as pas voulu entendre, parce que tu voulais faire comme si c'est toi qui conduisais les choses. Nous l'avons entendu ce matin, Ésaïe chapitre 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, dans ces temps de mise à part, dans ces temps de jeûne, dans ces temps où nous tenons devant Dieu, ayons ce cœur simple devant Dieu de dire, voilà Seigneur, je t'abandonne tout. Je t'abandonne tout, ma manière de voir les choses, ma manière de conduire ma vie, la manière dont j'ai mené mes projets, je t'abandonne tout ça. C'est possible qu'il ne se passe pas grand-chose quand tu jeûnes, parce qu'il y a de l'incrédulité dans ton cœur. Le jeûne n'est pas une sorte de formule magique, je le disais, par laquelle on peut obtenir tout ce que nous désirons. Alors, je jeûne, j'obtiens. Je jeûne plus, j'obtiens plus. Non, ce n'est pas une formule magique. Il est indispensable que nos cœurs soient remplis de cette ferme assurance que notre Dieu est grand, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le maître des temps, qu'il est le maître des circonstances. Dans ces temps où nous voulons nous tenir devant Dieu, si nous n'avons pas cette certitude dans le cœur, alors demandons-la, crions à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, viens au secours de mon incrédulité. Que j'ai cette foi d'un enfant pour reconnaître, pour accepter, pour simplement m'attendre à la promesse. Si nous laissons la moindre place à l'incrédulité, le malin se chargera bien vite de nous dire, regarde, t'as vu le nombre de fois où tu t'es tenu devant moi, devant Dieu, pardon, il ne s'est rien passé. Absolument rien dans ta vie. Regarde, tu jeûnes, tu pries, regarde, il ne se passe rien. C'est même pire des fois après. Et le doute s'installe. Ne laissons pas ces paroles, parce que le doute va s'installer. Et là, on va commencer à dire, oh, je ne suis pas assez bien, oh, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Et toutes ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Toutes ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Nous ne méritons rien. Oui, c'est vrai, nous ne méritons rien. Nous avons tout par grâce et par la foi en Jésus-Christ. On va même aller se dire, oui, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas bien respecté le jeûne. J'ai pris un petit bout de pain après, j'ai pris un petit goûter avant. J'ai pas bien fait mon jeûne. Oui, mais c'est des choses qu'on peut entendre. Mais heureusement que Dieu ne considère pas ces choses-là, heureusement. Heureusement, sinon on serait misérable, on serait écrasé. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il est recommandé, peut-être que ce serait bien que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Non, 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 il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est la moindre des choses, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si je me tiens devant lui et que je ne vois pas les choses arriver, je cherche et je cherche et je cherche. Seigneur, éclaire-moi. Pourquoi tu n'exauces pas? Est-ce que ce n'est pas ta volonté? Est-ce que tu veux me former? Mais je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu. C'est possible que rien ne se passe quand tu jeûnes, ou plus exactement, que tu ne vois pas ce qui se passe. Parce que l'enjeu, il est avant tout spirituel. Et on le voit très souvent, bien évidemment, dans des temps de jeûne, on peut avoir des réponses immédiates, des révélations, des choses qui sont instantanées. Mais on voit que très souvent, le temps de jeûne est un temps de désert, un temps de combat, un temps d'intercession, d'humiliation. Et les conséquences, le résultat, on le voit parfois bien plus tard. Pendant les 40 jours que Jésus a passé à jeûner dans le désert, en apparence, il ne s'est pas passé grand-chose. On ne sait pas grand-chose, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été tenté par le diable. Sur le reste, 40 jours, on a la tentation du diable, et c'est tout ce qu'on sait. Ah oui, on aurait pu dire, 40 jours de jeûne, il ne se passe pas grand-chose. Mais écoutez bien, pendant ces 40 jours-là, dans les lieux célestes, Dieu préparait 3 années qui allaient changer le destin de l'humanité. Pendant 40 jours de jeûne, Jésus se préparait à son ministère terrestre. Jésus se préparait à aller jusqu'au bout pour mourir sur la croix. Pendant ces 40 jours de jeûne, voilà le combat qui était mené. Alors oui, peut-être que pendant ces 40 jours, il n'y avait rien de spectaculaire. Mais l'enjeu, il était primordial. C'était notre salut. On peut le lire dans tous les récits, des histoires, des réveils spirituels, quels qu'ils soient, tous sans exception, ont été précédés de temps de jeûne et de prière pendant lesquels rien ne semblait se passer. Des hommes, des femmes, des mamies chez elles, des églises qui priaient, quelques groupes de frères et sœurs qui intercédaient, « Seigneur, réveille, réveille ton peuple, réveille notre nation. » Et il ne se passait pas grand-chose pendant ce temps-là. Mais Dieu lui préparait les choses là-haut. Que dire du ministère apostolique de Paul? Là aussi, on peut le lire ensemble dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, nous lirons les 3 premiers versets. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils se promenaient et qu'ils vaquaient à leurs occupations, à leurs distractions, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Et moi, je me pose souvent la question dans ces récits bibliques, que se serait-il passé si? Je ne sais pas si ça vous arrive de raisonner comme ça, mais moi je me dis, que se serait-il passé là si les frères d'église d'Antioche, ils ne s'étaient pas tenus dans le jeûne et la prière? Alors oui, Dieu est souverain. Vous allez me dire, Dieu, de toute façon, il est souverain. Oui. Mais je pense que dans ce moment-là particulièrement, le Saint-Esprit leur a parlé et a permis de faire lever Paul et Barnabas pour aller répandre l'évangile d'une manière extraordinaire. Et nous en sommes encore les bénéficiaires au travers des épîtres qui ont été écrites, au travers toutes ces églises qui ont été fondées parce qu'il y avait des frères là qui priaient et qui jeûnaient dans cette église d'Antioche. Alors, se tenir devant Dieu, ça peut être dans le jeûne, c'est pas toujours, on n'est pas appelé à jeûner tous les jours. Je pense qu'il faut aussi avoir un équilibre dans notre vie. Mais se tenir devant Dieu, ça, on peut le faire tous les jours. Et c'est une condition, c'est la condition indispensable pour une communion intime avec lui. La condition indispensable. Se tenir devant lui, dans une intimité, dans un cœur à cœur, pas pour demander, Seigneur, donne. Il y a un des proverbes qui dit la sensue, elle dit donne. Et parfois, on est des chrétiens sensus. On vient devant Dieu quand on a besoin, quand tout va bien. Bon, c'est une petite prière vite fait, merci Seigneur pour cette bonne journée, tu nous as gardé, amen. Et puis quand on est dans le besoin, alors là on commence à dire Seigneur, j'ai besoin, donne-moi, tu vois ma misère, tu vois mon besoin, tu vois ma difficulté, tu vois. Se tenir devant Dieu, c'est aussi pour être à son écoute et dire Seigneur, je veux recevoir de toi, je veux ton conseil. Alors, les temps de jeûne et qu'on a pu vivre cette semaine, ils sont bons pour l'Église, et il faut les renouveler, c'est ce qu'on fait depuis quelque temps. Mais j'aurais pu intituler mon message le jour d'après, ou les jours d'après, ou les semaines d'après. Est-ce que je referme la page du programme de jeûne de la Bonne Nouvelle en disant « je suis venu une fois, deux fois, tous les jours, tous les midis, tous les soirs, peu importe ». Et puis ben, ça y est, je reprends ma petite vie comme elle était avant. Ou est-ce que je veux donner une suite dans ma vie et dans ma piété personnelle? Est-ce que je veux, peut-être à partir de ce que j'ai reçu cette semaine, à partir de ce thème qui m'a parlé, se tenir devant Dieu, est-ce que je veux vivre autre chose dans ma relation? Tu veux en faire quoi de ta vie? Tu veux en faire quoi de ta vie? Je veux en faire quoi de ma vie? Es-tu satisfait de ta petite vie tranquille? Ou as-tu envie de connaître une toute autre dimension spirituelle? Penses-tu parce que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne tues pas, tu n'es pas adultère, bon, ta vie est bien rangée, alors tu n'as plus besoin de rien, rien de plus, tout va bien? Penses-tu que ta fidélité, ta régularité aux réunions de l'Église te suffiront pour entrer dans le ciel? Depuis quand? Vous savez, quand je m'étue parce que je m'adresse à vous, rassurez-vous, je me les suis posées avant. J'aurais pu mettre nous, je me les suis posées toutes ces questions, bien évidemment. Depuis quand n'as-tu pas vu le surnaturel de Dieu dans ta vie? Le surnaturel de Dieu dans ta vie, c'est à ça que nous sommes appelés. En tant qu'enfants de Dieu, c'est vivre le surnaturel de Dieu dans notre vie. Pas une fois au moment de la conversion, mais à le vivre dans notre quotidien. Aspires-tu à vivre la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie? À ce que des fleuves d'eau vive, coulent de ton sein? Ou est-ce que tu te contentes d'un petit filet d'eau presque tari? Ou comme nous l'avons entendu, je crois que c'était vendredi, d'une mare où l'eau elle est croupie, stagnante? À quelle source vas-tu te désaltérer? Aux sources du monde qui ne désaltèrent pas? Où vas-tu puiser dans les profondeurs de la parole de Dieu? Mon frère, ma sœur, mon ami, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction, tout nous montre que nous sommes dans les temps de la fin, Jésus vient bientôt. Où en sommes-nous? Oh, vous allez dire, mais moi ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans que je suis au Seigneur et j'entends ça, depuis 50 ans j'entends la même chose. Peut-être, oui. Mais moi je te dis que le Seigneur vient bientôt. Moi je te dis que le Seigneur vient bientôt. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je ne vais pas m'étendre ce matin sur la parabole des 10 vierges, des 5 vierges folles et des 5 vierges sages, qui sont, je crois, vraiment le reflet de ce que vit l'Église de Christ dans les temps que nous vivons. Il n'est pas question d'avoir de l'huile ou de ne pas en avoir, elles en avaient toutes. C'est d'en avoir en réserve. Et parfois, vous savez, dans le monde économique, aujourd'hui, on vit à flux tendu. On vit à flux tendu parce que ça coûte moins cher. Donc on ne stocke pas, on commande le matin pour avoir l'après-midi, voire on commande deux fois par jour même. Je commande à 8 heures, je suis livré le matin, et tout est à flux tendu. Et parfois on est des chrétiens à flux tendu avec l'huile, avec le Saint-Esprit. Juste un petit peu, juste ce qu'il me faut, Seigneur, aujourd'hui pour vivre, et puis je verrai bien demain. Le Seigneur nous demande d'avoir des réserves. Parce que le jour, il va paraître, et il est en route. il sera trop tard pour aller en acheter. Il sera trop tard pour aller en acheter. C'est le temps, l'heure n'est plus à la distraction. Alors je ne sais pas les uns les autres ce que chacun donnera comme suite à cette semaine de jeûne et prière, le choix appartient à chacun. Mais nous sommes tous, sans exception, invités à nous tenir encore et encore et encore et toujours devant Dieu. Cela ne dépend pas de nos forces, ça ne dépend pas de nos capacités, mais de notre volonté et de notre décision. Est-ce que je veux ? Est-ce que je veux ? Est-ce que je fais le choix ? Le fils prodigue, quand il était au plus bas, il a dit trois choses. Je me lèverai, j'irai et je dirai. Il n'a pas dit, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne peux pas, je suis allé trop loin, et ça. Et toutes les excuses qu'on se donne ne tiennent pas devant Dieu. C'est quoi mon choix ? Est-ce que je décide ou est-ce que je ne décide pas ? Est-ce que ma vie me convient ou est-ce qu'elle ne me convient pas ? Es-tu de ceux qui choisissent de se tenir devant Dieu ? Alors il faudra du courage. Il faudra de la détermination, mais Dieu honore ta décision et te donnera la force d'avancer. Jésus lui-même dira « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Arrêtons de nous berner. Arrêtons de penser qu'il y a plusieurs chemins, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Si tu penses entrer dans le ciel en passant par le chemin spacieux, alors arrête-toi tout de suite. Tu fais fausse route. Le seul chemin qui nous conduise à Christ, il est étroit. Il est opposé au chemin spacieux et il va dans la direction opposée. Il n'y en a que deux. On ne peut pas faire le grand écart, on ne peut pas être emmené par l'esprit du monde sur un chemin où tout est facile, en se disant, de toute façon, c'est le Seigneur qui conduit ma vie, il a pardonné mes péchés. Non, le chemin, il est étroit. Le chemin, il est étroit. Paul écrivait à Timothée, « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On le voit dans la première église, les persécutions. On le voit dans les pays où nos frères et sœurs sont torturés, sont emprisonnés, sont tués pour leur foi. Mais ne nous imaginons pas que ce soit différent pour nous, c'est le prix à payer. Alors il n'est pas question ici d'être des sortes de machos en disant « il faut que je sois persécuté ». Non, non, non. On n'est pas appelé à chercher la persécution. Hein. Enfin, moi en tout cas, c'est pas ce que j'ai pas envie de dire « je vais chercher la persécution ». On est appelé à vivre pieusement Jésus-Christ. Mais les conséquences, elles vont amener de la persécution. Parce qu'on est amené à se séparer de ce monde de péché. Mais quelle belle récompense qui nous attend là-haut, dans le ciel, dans la gloire. Alors, qui veut se tenir devant Dieu sérieusement ? Tu veux te tenir devant Dieu sérieusement ? Alors, il y a des choix. Il y a des choix. Il va falloir commencer par gérer les priorités. Le temps passé à des futilités. Que fais-tu ? Où es-tu lorsque tes frères et sœurs sont réunis pour prier ensemble ? Alors, j'entends déjà... J'entends déjà ceux qui disent « Ah, ça y est !» Comme s'il fallait être avec les frères et sœurs à l'église pour aimer le Seigneur. Moi, j'aime le Seigneur, dans mon coin, tout va bien, j'aime Dieu. Bien sûr qu'on peut aimer Dieu, et on n'est pas sauvé, et Dieu ne mesure pas la qualité de notre amour au nombre de fois où on est à l'église, et on n'est pas. Mais arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie ? Est-ce que la communion fraternelle, le temps passé dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs, est quelque chose qui brûle dans mon cœur ? Ou est-ce que, ouais, mais ça tombe le soir où j'ai mon entraînement, ça tombe le soir où il y a ma série à la télé, ça tombe le soir où je suis fatigué, ça tombe... Enfin, là encore, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Soit on reconnaît, soit on décide de dire « Oui, Seigneur, je suis misérable ». Mais ne nous voilons pas la face. Où sont nos priorités ? Tu veux te tenir devant Dieu, alors il va falloir que tu fasses le ménage dans ta vie et que tu ôtes toutes les idoles qui sont en abomination à l'Éternel, qui ont pris sa place, qui lui volent le temps et la place que tu devrais lui consacrer. Quand je relisais la période qui a précédé l'exil du peuple d'Israël à Babylone, c'est effroyable. C'est effroyable. sous le roi Manassé, quand on regarde tout ce qu'il avait fait entrer dans le temple de l'Éternel, mais on se dit comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et moi je dis, Seigneur, ouvre nos yeux pour nous montrer tout ce que nous avons fait rentrer dans le temple, dans notre propre temple, dans l'Église, des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Et le peuple et les sacrificateurs étaient là pensant apporter un culte, mais c'était une abomination à l'Éternel. Il y avait de tout, il y avait de la prostitution, il y avait Manassé, il interrogeait les devins, il consultait, enfin, mais c'était une abomination terrible. Alors là encore, certains vont dire « Oh, mais moi j'en suis pas là ». Oh non, les idoles, elles ont certainement pris des formes différentes. Moi, j'ai pas d'idole d'Astarté chez moi. Non, certainement. Mais elles ont pris des formes différentes. Et on voit que le petit-fils de Manassé, Josias, a fait le ménage dans le temple. Il a fait le ménage. Oh, il n'était pas vieux, il avait 26 ans. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être quinquagénaire, quadra, d'avoir 80 ans. Non, 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 on peut le faire tout jeune. Et Josias, il s'est levé. Parce qu'ils avaient même perdu le livre de l'Éternel, les lois que Dieu avait, avait donné Moïse. Ils ne savaient même plus où c'était, ça devait être enfoui dans un coin du temple, ils ne savaient même plus. Et ils ont fini par le retrouver, et Josias a dit, mais revenons, et il a ôté, il a sorti. Il a sorti. Et quand je dis, il faut qu'on fasse le ménage dans nos vies et qu'on ôte les idoles, bien souvent on dit, Seigneur, ôte ce qui est en moi qui n'est pas bon. Mais le Seigneur, il dit, non, non, toi, ôte. Moi, je vais te sanctifier, parce que ça, on ne peut pas le faire. Moi, je vais te purifier, parce que ça, moi, je ne peux pas le faire. Par contre, c'est à toi d'ôter. C'est à toi d'ôter. De quoi se nourrit-on quand on regarde toutes sortes de films, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, que ce soit au cinéma, de la violence, du meurtre, du viol, de l'adultère, de l'homosexualité, on pourrait rallonger la liste, hein. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique? As-tu plus facile à te priver de ta série télé préférée ou à passer une heure en rendez-vous avec ton Dieu? Oh, ça fait peut-être ringard, conservateur de dire ça, mais je l'assume. Je l'assume parce que c'est des questions et parce que ce sont des choses dans lesquelles, par le passé, j'ai été, parce que j'étais aveuglé. Es-tu plus angoissé quand tu n'ouvres pas la Bible une seule fois dans la semaine ou lorsque ton portable n'a plus de batterie pendant une heure de temps? Vous voyez, je suis très pratique. Hein. Je suis très pratique. Quand je vois l'état de stress de certaines personnes parce qu'il n'y a plus de batterie sur le portable, alors je ne dis pas parce qu'il y a une situation d'urgence et j'attends un coup de fil. Non, non, je crois que vous avez compris. Je crois que vous avez compris. Mais ça ne me gêne pas de rester une semaine sans ouvrir ma Bible et sans avoir un moment d'intimité avec Dieu. Mais si mon portable, pendant une heure, je l'ai perdu ou je l'ai oublié, ou il n'a plus de batterie, je suis angoissé. Combien de temps es-tu capable de te priver d'Internet sans être sur les nerfs? Ne penses-tu pas que Dieu a raison d'être jaloux de te voir passer autant de temps sur Facebook, sur les réseaux? Je ne vais pas faire la liste, vous les connaissez mieux que moi. Alors que tu lui adresses si peu la parole? Que dire du culte de la personnalité? Je m'aime trop, je suis trop beau. Vous savez, il y a des chrétiens, ils ont retenu un seul verset dans la Bible. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors oui, on en rit comme ça. On en rit comme ça. Il y avait, quand on était enfant, je ne sais pas si ça existe toujours, vous savez, il y avait les livres de Martine. Martine à la mer, Martine à la montagne, Martine... Et aujourd'hui, il y a moi au restaurant, moi dans la rue, moi ici, moi là, moi avec mon copain. Mais je le dis sous forme de plaisanterie. Mais a-t-on mis Dieu au centre de notre vie? Je m'aime tellement que je passe mon temps à me prendre en photo et à les diffuser autour de moi. Que de passions qui viennent prendre la place de Dieu, la liste serait longue. Et Dieu est en colère. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Dieu est en colère. On a plus facile, je le disais dans la semaine, à parler du Dieu d'amour, du Dieu patient, du Dieu qui pleure, du Dieu... Mais moi, je te dis que Dieu est en colère. Parce que chaque fois que le peuple abandonne ses voies et se tourne vers d'autres dieux, il est en colère. Alors oui, ça n'empêche pas qu'il est amour, ça n'empêche pas que nous avons la grâce, ça n'empêche pas que nous pouvons nous repentir et venir à lui. Mais il est temps, il est temps, il est temps, si nous voulons le suivre fidèlement, de revenir à l'essentiel et de nous détourner de nos idoles. Tu veux te tenir sérieusement devant Dieu ? Alors il va falloir refuser et rejeter l'esprit du monde qui envahit nos vies, qui envahit nos églises. Il va falloir accepter d'être mis à part, d'être sanctifié pour Dieu. On chantait ce matin ce chant et beaucoup ont dû le chanter, « Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint ». Alors ça, on le chante assez facilement, parce qu'on sait qu'on ne peut pas trop se sanctifier nous-mêmes. Je n'ai qu'un désir, être saint, pas pour continuer à me vautrer dans la misère et dans le péché, mis à part pour toi, sanctifié, mis à part. Ça, c'est un peu plus difficile. Parce que oui, Dieu nous met à part. Dieu nous sanctifie, il nous met à part. Mais est-ce que j'ai envie de rester à part ? Parce que si à chaque fois je reviens dans mes travers et dans mes penchants et que je n'abandonne pas mes mauvaises voies, alors je ne peux pas considérer que je suis à part. Il va falloir passer du temps dans la prière personnelle, passer du temps dans la lecture de la méditation de la parole, passer du temps dans la prière en couple, chercher la volonté de Dieu pour sa vie, pour son foyer, pour ses enfants. Je parlais de cette époque, de ce temps où l'abomination était à son comble dans le peuple d'Israël. Et puis Josias a rétabli les choses, mais le peuple aussitôt a redévié. Dès que Josias est mort, un autre est arrivé, et puis c'était reparti. Et même du temps de Josias, il nous est dit que la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu s'est enflammée contre son peuple qui s'était détourné. Et dans cette période-là, il y avait des prophètes, des hommes de Dieu. Alors nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, mais nous sommes tous appelés, hommes, femmes, enfants de Dieu, à nous tenir debout et à tenir ferme. Et on a des Habacuc, on a des Jérémie, d'autres, qui, eux, ont choisi de marcher fidèlement avec Dieu, quel qu'en soit le prix. Ils avaient choisi de s'opposer aux prophètes corrompus, qui annonçaient des messages au nom de l'Éternel, mais qui étaient des mensonges. Vous pourrez relire tout ça dans Jérémie. Il y avait des hommes de Dieu qui se tenaient debout parce qu'ils avaient choisi de ne pas plier devant les idoles. Et Habacuc, au chapitre 2, au verset 1, dira ceci. « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Et j'ai trouvé que c'était une belle définition de ce que c'est que se tenir devant Dieu. J'étais à mon poste, je n'étais pas ailleurs, je n'étais pas à mes distractions, j'étais à mon poste, là où le Seigneur m'appelait, là où il voulait que je sois. Je n'avais pas déserté, comme peut-être tant d'autres, c'est facile de dire « oui, mais tout le monde fait comme ça ». Mais le Seigneur, quand on sera devant lui, je peux vous garantir que ça ne va pas tenir une demi-seconde. « Ouais, mais Seigneur, moi je ne savais pas. » « Comment ça, tu ne savais pas ?»« Ouais, mais tout le monde, ouais, mais même dans l'Église. » Mais attends, tu n'avais pas ma parole ? Tu n'avais pas mon esprit ? Et lui, Habacuc, il a choisi. Il a choisi d'être à son poste, de ne pas déserter. Et puis, il dit, je me tenais sur la tour. La tour nous parle de hauteur. Je pense, ce n'est pas précisé, probablement que c'était une tour qui était sur la muraille. En tout cas, c'était fortifié. Et c'était un endroit où on avait une vue dominante. Et ça permettait surtout de voir ce qui se passait, de ne pas se laisser surprendre par l'ennemi. Le Seigneur veut qu'on soit sur notre tour, qu'on soit vigilant, qu'on soit vigilant. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Seigneur, je veux être à ton écoute. Je ne veux pas me laisser distraire ni écouter une autre voix que la tienne. J'ai besoin de t'entendre. Et là, il veillait, il veillait. Si je m'endors, je ne risque pas d'entendre ce que le Seigneur a à me dire. Vous savez, les personnes endormies, il y a une particularité, c'est que les personnes endormies, c'est à peu près les seules qui ne savent pas qu'elles dorment. Mais oui, c'est à peu près les seules qui ne savent pas qu'elles dorment. Seigneur, tiens-moi éveillé dans ce temps de confusion. Je veux rester éveillé, je veux être sur mes gardes pour voir ce que toi tu as à me dire. Et puis un peu plus loin, Habacuc écrira au chapitre 3, verset 1, ce qui est la conséquence normale, éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je me tiens, je suis à mon poste, je suis sur ma tour, je veille pourquoi ? Parce que je veux entendre. Et oui, éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Alors, ce n'était pas chouette, ce que l'Éternel a annoncé à Habacuc. Ce n'était certainement pas ce qu'il pensait qu'il allait se passer. Là aussi, on voit qu'entre les prophètes qui étaient corrompus, qui disaient « Mais non, vous inquiétez pas, vous ne serez pas déportés, l'ennemi ne va pas venir, tout va bien se passer. » Et on se laisse endormir. C'est plus facile, d'ailleurs, de se laisser emmener par ce qui nous rassure et ce qui... Que de dire « Non, l'ennemi va venir parce que Dieu est en colère et qu'il a choisi... » d'envoyer son peuple en déportation, et c'est le message que Dieu a donné à Habacuc. Et Habacuc s'est dressé contre les prophètes menteurs qui disaient « Mais non, l'écoutez pas !» Et Jérémie, pareil. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. » Peut-être l'Éternel va nous annoncer des choses auxquelles nous ne nous attendons pas, mais ce n'est pas grave. Acceptons-les. Combien de temps a-t-il attendu? On ne sait pas. Mais en tout cas, il ne s'est pas impatienté d'attendre la réponse de Dieu qui se servira de lui pour avertir le peuple du danger qu'il courait. Alors, je ne sais pas quelle sera ta décision dans les jours, dans les semaines qui viennent. Moi, je veux être de ceux qui se tiennent devant Dieu pour le laisser m'inonder de sa présence, recevoir de lui tout son conseil. Nous l'avons aussi entendu ce matin dans ce texte d'Ésaïe, « Il est temps ». Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Je voudrais qu'on puisse prier, rentrer dans un temps où nous pouvons réellement nous tenir devant lui parce qu'il est là parmi nous ce matin. Et au travers tout ce que nous avons entendu pendant la louange, pendant ce temps de prédication, que nous puissions laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Sommes-nous comme le peuple d'Israël qui voulait se tenir devant Dieu, mais dans l'éloignement ? Et dans l'éloignement, on ne peut pas entendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas sentir. Alors, est-ce qu'on va se contenter de dire « Oui, mais oui, moi, ma vie, je l'ai donnée à Dieu, donc c'est bien, tout va bien. » Ou est-ce qu'on a envie d'autre chose ? Est-ce qu'on a envie de ce cœur à cœur ? Est-ce qu'on a envie d'avoir ces temps particuliers de rafraîchissement ? Ne nous laissons pas toucher par nos sentiments. Le Seigneur veut autre chose, le Seigneur veut des cœurs humiliés. Le Seigneur veut des cœurs repentants, veut des cœurs qui se laissent toucher par son esprit. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Tu es arrivé jusqu'ici, tu es fatigué, lassé, chargé. Il y a quelqu'un ici qui est comme fatigué, vraiment une fatigue pesante sur son cœur. L'Éternel t'appelle ce moment-là.
Alléluia. Parce que c'est vrai que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu patient, miséricordieux. Tu es lent à la colère et ta colère ne dure pas toujours, Seigneur. Mais nous voulons reconnaître humblement devant toi, Seigneur, notre misère. Nous voulons reconnaître devant toi quand nous nous sommes égarés. Et nous voulons nous laisser éclairer par toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir souffler un vent de repentance dans les cœurs. Nous ne voulons pas nous humilier de manière charnelle. Nous ne voulons pas faire nos propres chemins de croix, mais nous voulons te laisser toucher notre cœur. Nous voulons que ce soit ton Saint-Esprit qui vienne, Seigneur, nous montrer précisément dans nos vies ce qui a besoin d'être ôté, d'être arraché. Je te prie, Seigneur, que dans les heures, dans les jours qui viennent, il y ait des décisions qui soient prises, qu'il y ait des vies qui se tournent encore plus vers toi et qui s'approchent toujours plus de toi. Nous voulons vraiment nous tenir devant toi, Seigneur, avec crainte et tremblement, considérant ta sainteté, ta grandeur, ta majesté. Ô Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Alléluia. Je voudrais juste rapidement donner l'occasion à peut-être à plusieurs qui ont été touchés au plus profond de leur cœur ce matin. Et vous savez ce qu'il y a besoin d'être mis en ordre. Et à ceux et celles qui disent « Oui, moi je décide ce matin. Je décide. » Oh, ce sera peut-être pas facile, j'y arriverai peut-être pas du premier coup, mais je décide devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu, de régler ce qui a besoin d'être réglé dans ma vie. Alors je vais vous inviter juste à vous lever à votre place pour manifester cet engagement, cette décision. Et puis je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vienne. Il ne pourra purifier que quand les choses auront été enlevées. Et c'est à chacun de se tenir et de dire « Oui, moi je veux ». Ça, je n'en veux plus dans ma vie. Peut-être certains sont tenus et tu as essayé maintes et maintes fois d'enlever des choses qui sont devenues comme des liens dans ta vie. Qui sont des liens qui te tiennent. C'est devenu une addiction. Des choses qui peuvent au début paraître bénignes. Et aujourd'hui, c'est comme une addiction. Et puis tu prends une décision. Et puis tu tiens une heure, deux heures, un jour, deux jours, et puis c'est plus fort que toi, tu y retournes. Et ce matin, moi je veux te dire de la part du Seigneur qu'il est capable de t'en libérer. Il est capable de t'en libérer. Décide ce matin. Non pas par ta force, non pas parce que tu mets toute ta volonté, mais parce que tu décides de te tenir devant lui et de dire « Seigneur, je crie à toi, secours-moi ». Alors il va le faire, il va t'aider. Et puis tout ce temps que tu vas dégager, toutes ces choses que tu vas ôter de ta vie, alors consacre du temps à te tenir devant ton Dieu, à chercher sa face, à méditer sa parole, à le prier, à chercher son conseil. Et il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Je te prie, Seigneur, de bénir ce matin tous ceux, toutes celles qui sont là debout devant toi. Tu connais les cœurs, Seigneur. Tu sondes les cœurs et les reins. Nous ne voulons pas être comme ces hommes religieux, ces pharisiens qui se tenaient pour montrer une image qui était complètement fausse. Nous voulons être vrais devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous mentir à nous-mêmes. Et je te prie pour chacun en particulier qui est là ce matin devant toi. Tu sais les combats, Seigneur. Nous savons que l'enjeu est spirituel. Et je te prie, Seigneur, de répandre ta grâce dans chacun des cœurs. Qu'il y a un esprit de repentance, un esprit d'affliction, mais pour être relevé par toi, Seigneur. Merci de venir, Seigneur, donner la force d'ôter, d'arracher, pour que tu puisses derrière déverser l'onction du Saint-Esprit dans les vies. Tu sais, ceux et celles qui aspirent à la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, remplir les vies du Saint-Esprit. Viens déverser, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons revenir, Seigneur, à ta parole. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Manifeste ta présence dans les vies, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, Amen. 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 Amen.